Composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller, zéro déchet.
La fête de la récup, c'est sur Studio Zef.
Voilà, on continue, on est toujours en plateau et voilà, on est là jusqu'à 18h. Donc si vous êtes à la maison, derrière le poste, il est toujours temps de venir pour découvrir les nombreuses propositions autour de la réduction et la valorisation des déchets. Même si, Lise, tu pourras me le dire, on a déjà beaucoup de monde ici.
Oui, il y a une demi-heure, à 16h, il y avait déjà 2000 personnes. Je pense que le record de l'année dernière va être largement battu. En tout cas, ça ne désemplit pas.
D'accord.
On est très contents.
Mais bon, il y a quand même de la place pour venir si on a envie.
Tout à fait. Jusqu'à 18h, venez nombreux.
Voilà. Nous allons maintenant évoquer un sujet qui me semble essentiel pour avoir une vraie réduction effective de la production de déchets, c'est l'implication du monde de l'entreprise et l'incitation des professionnels à mettre en œuvre des démarches concrètes face à la production de déchets. Donc pour en parler, je reçois trois invités, donc Lise Ramos de Valeco, Denis Chal de la Chambre des métiers de l'artisanat et Jérôme Pascal, propriétaire du food truck Croque ma poule, qui est présent aujourd'hui sur le parvis du Jeu de Paume. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors déjà, avant qu'on commence, est-ce qu'on peut vous pouvez présenter vos différentes structures? On va commencer par Valeco peut-être, qui êtes à la baguette aujourd'hui sur l'organisation de cet événement.
Oui, la fête de la récup est organisée aussi en lien avec Aglopolis, la communauté d'agglomération de Blois. Donc moi, je suis en charge de la prévention des déchets et de la communication au syndicat Valeco.
Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, c'est quoi Valeco?
Valeco, c'est le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets. Parmi notre principale mission, il y a sensibilisation de tous les publics, et c'est l'objet notamment de notre présence aujourd'hui. Également la prévention, c'est-à-dire toutes les actions qui permettent de réduire les déchets, ou en tout cas, l'idée étant que le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit.
D'accord. Alors, Denis, vous, la Chambre des métiers de l'artisanat, alors c'est un sigle qu'on peut entendre, en tout cas l'artisanat ça parle aux auditeurs, ça parle aux gens en général. C'est quoi le rôle de la Chambre des métiers de l'artisanat?
Alors l'artisanat c'est tout d'abord 250 activités différentes sur le territoire et 6800 entreprises artisanales sur le Recher. En tant que Chambre des métiers, nous sommes là pour représenter les artisans et les accompagner tout au long de la vie de l'entreprise, que ce soit au moment de la création, au moment du développement, au moment de la transmission de l'entreprise. Et si aujourd'hui nous sommes présents ici à la fête de la récup, c'est pour mettre en avant les compétences et les savoir-faire des entreprises artisanales du Loir-et-Cher liées à tout ce qui est réparation, remise en état, donner une seconde vie aux produits.
D'accord. Alors Jérôme Pascal, qu'est-ce qu'on peut dire sur Croque ma poule?
Alors Croque ma poule, c'est donc un produit local avec des produits locaux. Je prends chez les maraîchers du coin, je fais du local et de saison. Voilà.
D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez du coup?
Alors, croque-ma-poule, c'est un sandwich fait avec un pain légèrement brioché. La base, c'est tomate, emmental et crème. Et ensuite, j'ai 8 à 9 variétés. Et on fait des formules avec des soupes, des salades et des desserts maison. Simples, riz au lait, panna cotta, pomme au four, voilà des
D'accord.
choses.
D'accord. Et le tout dans un camion?
Dans un camion qui se déplace.
Et qu'on peut retrouver un petit peu partout?
Un petit peu partout dans le Loir-et-Cher. Le midi, c'est plus les entreprises et les centres commerciaux. Et le soir, les villages. Herbeau, les Montis, Huisseau-sur-Cosson. Voilà. Et les week-ends, des événements comme celui-ci.
D'accord. Alors, pour inciter à accompagner les entreprises volontaires à faire des démarches globales de changement de pratique, Valeco et la Chambre des métiers de l'artisanat ont créé un label que vous avez appelé le label Éco-Défi, c'est bien ça?
Oui, absolument.
Voilà. Et vous, Jérôme, vous êtes éco-labellisé?
Voilà, je suis éco-labellisé, j'ai le label argent, il y a bronze, argent et or.
On va peut-être commencer du coup par expliquer le label, puis vous nous direz un petit peu votre implication dans ce label.
D'accord.
Alors, est-ce que quelqu'un peut le présenter ce label Éco-Défi et expliquer dans quel domaine vous accompagnez les entreprises?
Oui, alors le label Éco-Défi, il est né d'une initiative de la Chambre des métiers du 94. Donc nous, on l'a mis en place sur le Loir-et-Cher maintenant depuis 3 ans. C'est la 3e édition en 2018. Donc c'est un label qui permet de valoriser les entreprises artisanales et les commerces qui mettent en œuvre des actions concrètes en faveur de l'environnement, que ce soit dans le domaine du tri et de la prévention des déchets notamment. Voilà.
Alors les actions concrètes que vous incitez auxquelles vont répondre les entreprises. C'est lesquelles? Est-ce qu'on peut peut-être en faire une liste rapide?
Oui, alors il y a notamment les défis réduction. Donc je vais vous les lister. Il y a le défi stop gaspillage, donc c'est limiter le gaspillage alimentaire. Il y a le défi réemploi, réparation, donc dans la mesure du possible, réparer ou faire réparer ses appareils électroménagers, ses meubles, etc. Le défi compostage, le défi emballage fournisseur, donc là c'est l'idée de demander à ses fournisseurs de diminuer le suremballage des produits. Le défi contenant client qu'on a lancé cette année, c'est-à-dire que vous pouvez apporter votre tupperware, votre emballage en verre auprès de votre commerçant et il le remplit, etc. Donc tout ça, ça permet de limiter les déchets et ça a bien pris. C'est visible notamment par un macaron que l'on a créé qui est visible sur le comptoir ou la porte du commerçant engagé.
D'accord.
Voilà, il y a d'autres défis. Le défi stop pub, donc celui-là, il est assez facile à réaliser. Et le défi diagnostic réduction des déchets, donc là, c'était un défi un peu plus important, c'est-à-dire que l'ambassadrice prévention de Valeco allait chez l'entreprise artisanale, le commerçant, et faisait une étude complète de ces déchets pour proposer ensuite des pistes d'amélioration. Et ensuite, on a des défis aussi au niveau du tri sélectif, mettre en place des points de collecte de piles, et également des défis éco-produits fluides et énergie que peut développer Denis, puisque ça concerne plus la chambre des métiers.
Donc effectivement, sur la liste des défis, on incite le professionnel à relever au moins 5 défis pour pouvoir être labellisé. Puis en fonction du nombre de défis, de la difficulté des défis, il peut être catégorisé or, argent ou bronze en fonction de ses bonnes pratiques. On a 5 catégories principaux concernant les déchets, ça va être notamment tout ce qui est déchets. On va être également sur tout ce qui va être produits locaux, donc mettre en avant les productions de produits locaux, produits de saison, les circuits courts, les produits labellisés également. Et puis également tout ce qui va être sur l'énergie, les économies d'énergie au sein des entreprises, et puis également tout ce qui est fluide et eau pour les rejets, notamment pour les bouchers, charcutiers, restaurants, etc.
Donc là, on dépasse le cadre de la récup, de la réduction des déchets. On est vraiment sur un label qui pourrait être écologique dans son ensemble.
Oui, on est sur une démarche environnementale complète pour une entreprise artisanale. On est sur des entreprises de très très petite taille. Les artisans, c'est moins de 10 salariés. Là, actuellement, on est à 101 entreprises labellisées pour l'édition 2018. Et la plupart n'ont pas de salariés ou 2 salariés en moyenne.
C'est vraiment
une toute petite structure. Et l'objectif, c'est vraiment de les accompagner, de leur faire prendre conscience déjà des bonnes pratiques qu'elles ont en interne, au quotidien, avec leur équipe, et puis de les aiguiller, notamment sur du compostage. On verra tout à l'heure des exemples concrets de professionnels qui ont mis en place du compostage pour pouvoir réduire la quantité de déchets, puis également optimiser le coût économique du déchet.
Oui, parce que tu disais, Lise, il y a des défis qui sont assez simples à remplir, qui permettent déjà de s'intégrer facilement dans ce label quelque part, parce que en étant obligé de respecter ou en tout cas de s'intégrer dans 5 défis, le fait qu'il y en ait des plus faciles et des plus compliqués, ça évite d'amener une complication des modifications trop importantes du premier coup, quoi. Ça permet d'y aller progressivement aussi.
Absolument, on est vraiment sur une démarche, on va dire marche par marche, où la première année, on allait en entreprise, c'était relever 3 défis. Souvent, sur les 3 défis, il y en a un ou deux qui étaient déjà existants dans l'entreprise, et puis on accompagnait le professionnel, on l'incitait à relever un 3e défi. Cette année, pour la 3e édition, on a 5 défis relevés, et puis on incite toujours le professionnel à relever des nouveaux défis chaque année, donc à nous de réactualiser la liste, de l'augmenter. Par exemple, en 2018, on a mis en place le contenant client. Ça permet aux professionnels également de fidéliser sa clientèle, parce que si je vais voir mon boucher avec mon propre contenant, quand je vais en grande surface, c'est pas possible. Il refuse mon contenant. Donc ça me permet d'aller chez mon boucher et de pouvoir travailler avec lui, de fidéliser sa clientèle.
Donc là, il y a de plus en plus d'artisans qui adhèrent ou qui, en tout cas, qui relèvent ces éco-défis. Est-ce que vous avez vu des gens qui sont revenus en arrière sur ces pratiques-là ou pas trop?
Alors, bien souvent, une entreprise, elle est liée également à son activité économique. C'est sûr qu'une entreprise qui a des difficultés économiques, le chef d'entreprise aura moins de temps à consacrer à la gestion de ses déchets. Au contraire, si l'entreprise fonctionne plutôt bien, qu'il a structuré sa démarche, il peut avoir du temps à consacrer à ce dispositif. Chaque année, on est monté en puissance. La première année, on avait 50 labellisés. La deuxième année, 80. Cette année, on est à 101. On a un taux de conversion, c'est-à-dire d'entreprises qui continuent la démarche, qui est extrêmement élevé. On en a perdu 7 l'année dernière. Et la plupart, c'était pour des fermetures économiques, malheureusement. On en a 2 ou 3 qui n'ont pas souhaité renouveler la démarche. Mais le gros des entreprises ont senti qu'à la fois en interne, interne, ça permettait de motiver les équipes, et à la fois en externe vis-à-vis de la clientèle, ça permet d'avoir une approche différente et complémentaire.
Alors, bah, on va se prendre un cas concret, puisque le cas de Jérôme Pascal, vous participez à ce label.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez citer les différents labels, les différents défis auxquels vous participez ?
Alors moi, parmi toute la liste, j'ai touché quasiment à tous, en fait. Mais c'était naturel. On m'a démarché par rapport à ça, mais je faisais déjà avant. Quasiment, j'ai juste eu quelques emballages à modifier. Mais sinon, moi, je prends des produits frais, je vais les chercher, il n'y a pas de contenant. Après, je fais mes légumes, je fais du compostage, etc., etc. Et puis, même avec mes emballages que je récupère, c'est du bambou, c'est du bois, c'est du papier craft, du carton. J'ai encore un peu, malheureusement, de plastique sur certaines choses. Mais bon, il y a des choses qui existent avec du maïs, de la canne à sucre et tout ça. Ça évolue parce que... De toute façon, le plastique sera bientôt interdit.
Oui, donc il y a une évolution réglementaire qui vous oblige aussi, à côté de ça, à vous adapter.
Exactement. Et donc, pour moi, c'était dans le bon sens. Et puis aussi, les contenants clients, ça, j'avais déjà des clients qui venaient par souci écologique. Donc, moi, je ne voyais pas le problème à ça. Et ça s'est fait vraiment tout naturellement.
Depuis combien de temps vous êtes éco-labellisé, du coup ?
Eh bien, je suis éco-labellisé depuis cette année. Mais les démarches, moi, je les ai fait en créant le camion il y a 2 ans quand on a commencé. Déjà, j'avais cette démarche, le moins de plastique possible.
D'accord. Voilà. Et donc, du coup, là, vous avez obtenu une labellisation argent, c'est ça ?
Argent, voilà.
D'accord.
Argent, alors je crois, je vais peut-être dire une bêtise, mais pour avoir l'or, il faut créer quelque chose, hein, je crois. Il faut une nouvelle démarche qui n'existe pas, faire un petit plus encore. Voilà.
Bah, peut-être que tu peux...
Oui, alors effectivement, pour être... Or, argent, bronze, il faut relever un certain nombre de défis. Ces défis sont, on va dire, évalués avec un certain nombre d'étoiles en fonction de leurs difficultés. Et pour être or, il faut avoir au-delà de 21 étoiles, on va dire. Donc, c'est quand même pour des entreprises qui ont une très bonne démarche environnementale. Dans le cas dans Food Truck, on reste toujours limité à des contraintes liées au métier. On parlait d'emballage. Bah, effectivement, quand je fais de la vente à emporter, forcément, mes produits sont emballés. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à quelques années en arrière, il y a beaucoup moins de plastique. Par exemple, tout ce qui est sachetterie plastique n'existe plus. Alors qu'il y a 3 ans en arrière, c'était inconcevable de repartir sans mon sachet.
C'est vrai. Maintenant, on a tout, même les sacs, c'est des sacs en maïs, tout est biodégradable. Après, il faut les trier quand même à la fin pour.
Oui, pour que ça parte dans les bons circuits.
Voilà.
Alors, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre activité, du coup, cette année en tout cas ?
Oui, les gens ont bien remarqué le joli label qui est sur le camion.
D'accord.
Et ils posent des questions. Ouais, ils posent des questions et les gens ils sont de plus en plus attirés par cette démarche. Et donc, voilà. Alors, juste le fait, même pour eux, on peut leur apprendre certaines choses, style d'aller chez un maraîcher à côté de chez eux plutôt que. Et là, ils y vont avec un carton et ils ont moins de déchets.
D'accord. Le processus de labellisation, comment ça se déroule ? Peut-être que vous pouvez en parler, Jérôme. Et puis, ils pourront compléter autour de vous. Comment se passe le processus de labellisation ?
Alors, moi, j'ai été démarché. Ils sont venus à la maison. On a parlé, on a épluché tous les défis qu'il y avait à faire. Et je disais si je rentrais dedans ou pas et dans quel défi je pouvais m'améliorer ou changer quelque chose. Voilà tout simplement comment ça s'est passé.
D'accord. Et vous faites toujours des démarchages comme ça ou il y a aussi des entreprises ou des artisans qui viennent vous voir ?
C'est un peu des deux. Le gros des troupes, c'est quand même du démarchage sur une opération de proximité pour des commerces de proximité. Donc tout l'intérêt est d'aller à la rencontre de ces commerces. Donc on fait en sorte d'avoir les moyens humains de se déplacer, de rencontrer les professionnels, de leur expliquer le dispositif, de faire un point avec eux sur leur gestion environnementale. Soit le professionnel s'engage dans la démarche, soit il ne souhaite pas s'engager, mais au moins on aura eu un contact et une sensibilisation. Toutefois, je tiens à souligner que ce soit du côté de Valeco ou de la chambre de métier, on essaie de travailler de manière très professionnelle, donc on tient à goûter toutes les productions de chaque food truck que l'on visite à chaque fois avant de les labelliser.
Est-ce que c'est vraiment une contrainte ? Ça, je ne sais pas.
Non, mais voilà.
Il y a pire comme boulot quand même à ce niveau-là.
Hein. On essaye vraiment de s'adapter en fonction des activités des différents établissements, parce qu'entre un food truck et un restaurant, tous les deux, on est dans des établissements qui donnent à manger à un client, mais c'est pas du tout la même manière de préparer. Ce sont pas forcément les mêmes produits aussi, donc il faut qu'on adapte les défis aux différents commerces.
Alors là, vous citez beaucoup d'exemples qui sont liés à l'alimentaire, mais est-ce qu'il y a des éco-défis qui sont liés à des activités qui ne sont pas liées à l'alimentaire, des artisans autres ?
Non, le label Éco-Défi pour les trois éditions ne concerne que le secteur de l'alimentaire, les métiers de bouche.
D'accord.
Sur les 53 communes du Blaisois, ce qui représente quand même en termes d'habitants 120 000 habitants. Voilà, pour l'instant, les trois éditions se sont cantonnées au secteur alimentaire, ce qui représente un nombre d'entreprises déjà conséquent.
Oui, il y a encore un vivier d'entreprises à démarcher, à aller voir pour faire vivre ce label, quoi.
Tout à fait. Ouais. Bah, c'est évolutif, hein. Comme disait Denis tout à l'heure, chaque année on rajoute un petit plus pour aller plus loin dans la difficulté, dans l'adhésion aussi, qu'on ait plus de monde. Donc voilà. Pour qu'il y ait un sens aussi à ce label Éco-Défi.
D'accord. Et donc vous, Jérôme, depuis que vous avez le label, est-ce que vous avez vu un intérêt, un gain?
Oui, beaucoup de curiosité. Oui, effectivement. Les gens, ils savent, après, de bouche à oreille, ils savent que la démarche qu'on a fait. Et ils viennent peut-être plus facilement vers nous, on va dire. Ouais.
Et en plus, vous parliez de contenants, de ramener ces contenants.
Oui.
Ça, vous le voyez beaucoup ?
De plus en plus.
Ouais.
De plus en plus. Des clients habitués, ils ont vu le logo aussi. Et ils viennent avec leurs contenants. Et ça, c'est très bien. C'est encore une démarche différente qu'on a avec nos clients. C'est sympa. C'est vraiment...
Oui, il y a une relation de confiance.
Il y a une relation différente qui s'instaure, en fait.
D'accord. Donc vous aussi, on peut peut-être rappeler quelques chiffres. Combien d'entreprises? Donc 100.
Non, alors 101 entreprises labellisées.
Voilà.
On est à peu près sur un vivier d'entreprises dans les 350 entreprises dans la restauration et les métiers de l'alimentaire. C'est-à-dire qu'on a plutôt un bon score. Si on regarde, on a en boulangerie, on est à plus de 60% d'entreprises, enfin de boulangeries qui sont labellisées sur le territoire. Pour les boucheries similaires. On a encore des marges de manœuvre sur tout ce qui va être restauration traditionnelle, notamment.
D'accord. Et pourquoi certaines entreprises se sentent peut-être plus investies? Ou en tout cas, c'est vous qui avez fait ces démarches-là particulièrement
Alors, effectivement, on a souhaité démarrer sur les métiers liés à l'alimentaire, tout simplement parce qu'elles gèrent des volumes de déchets assez importants, notamment des déchets biodéchets, des déchets fermentissibles. Donc on voulait les accompagner à réduire ces quantités de déchets, notamment à les inciter à mettre en place du compostage, dans un premier temps. Et sur les entreprises, on va dire que les restaurateurs, c'est un public qui est assez compliqué de mobiliser parce qu'ils ont très très peu de temps disponible aussi. C'est vrai qu'avec les bouchers, les boulangers, c'est un public qui est plus simple à travailler avec eux parce qu'ils ont, on va dire, plus de temps de présence dans l'établissement et du temps disponible qu'ils puissent nous consacrer pour travailler avec eux.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué d'aller voir des restaurateurs parce qu'ils sont soit en cuisine à travailler, soit ils servent les gens, ou alors ils ne sont pas là parce que du coup ils font une pause dans l'après-midi avant de rattaquer le service du soir. C'est, voilà, d'accord.
Mais je pense que dans les restaurants, les démarches se font un peu naturellement par souci pour ne pas gâcher les produits et tout ça. Et je pense que c'est vrai, ils ne sont peut-être pas écolabilisés, mais il y en a beaucoup qui doivent
rentrer dans les
rentrer
coups.
Rentrer dans les rangs, ouais, je pense.
D'accord. Alors peut-être pour donner aussi une vision d'ensemble à nos auditeurs, moi j'avais des questions peut-être plus d'un point de vue un technique entre guillemets, mais ce label, il a un coût, c'est-à-dire que c'est une démarche qui va coûter, en tout cas dans vos structures, puisque vous avez, vous, du temps de travail, un investissement financier, etc. Quel coût ça a pour vos structures de mettre en place ce label?
Pour la partie Valeco, c'est du temps agent essentiellement, hein, puisqu'après c'est surtout une opération de communication quand même, l'opération Éco-Défi. Donc à part après les outils de communication comme les macarons Éco-Défi, les labels, les certificats, etc., c'est surtout du temps agent en tant que tel. Ouais.
D'accord. Donc un coût relativement faible. Oui.
Un coût d'agent.
D'accord, ok.
Alors, c'est vrai sur le coup, tout d'abord il faut signaler que pour l'entreprise, c'est un label qui est totalement gratuit, on ne souhaitait pas le faire payer. C'est déjà, on demande du temps au chef d'entreprise, on va l'inciter à relever des défis, donc à passer également du temps, à investir du temps dans son entreprise pour gagner à la fois de la clientèle, gagner en efficacité, puis en gain économique et financier également. Nous, au niveau de la chambre de métier, sur les trois dernières années, on s'appuie également sur les personnes, sur les stagiaires, pour pouvoir avoir du temps de disponible et aller rencontrer l'ensemble des professionnels avant de les labelliser. On est à peu près sur un volume de 140-150 jours par an sur ce dispositif-là.
Oui, ça mobilise des forces.
Oui. Ouais. Oui, et il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut du relationnel, il faut du temps de présence vis-à-vis de ces entreprises-là pour également faire un point avec elles sur leur activité, sur quels sont leurs besoins, pour également pouvoir adapter les éco-défis, les prochaines éditions en fonction du retour des professionnels.
D'accord. Et du coup, je suppose que vous voyez un gain quelque part si l'opération est renouvelée d'année en année, c'est que vous y voyez quelque chose, en tout cas un gain pour la collectivité.
Oui, nous, notre objectif, c'est développer le tri, un tri de qualité et aussi réduire les déchets. Donc, nous, notre objectif, il est là. Nos missions, c'est aussi la sensibilisation des professionnels. Donc, notre gain, voilà, c'est déjà des messages ancrés de nouvelles pratiques. Nous, le gain, il est à ce niveau-là, en fait.
D'accord.
Alors, il se chiffre aussi au niveau de la réduction en termes de déchets.
De volume aussi.
De volume, voilà.
Alors du coup, tu parlais de pratique et d'évolution de pratique. Justement, vous avez, vous observé dans certaines entreprises des changements comme ça, un peu spectaculaires ou en tout cas visibles?
Oui, par exemple, quelque chose de novateur qui a été mis en place, c'est un site de compostage interprofessionnel qui existe à Candé-sur-Beuvron.
Ils viendront en parler tout à l'heure, on fera un plateau autour du compostage, ils viendront en parler.
Très bien, ouais. Donc ça fait partie notamment des choses novatrices et qui montrent aussi une forme de solidarité, de mettre en lien les déchets en partageant un site commun de compostage. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est bien vu.
D'accord.
Donc du coup, je ne vais pas le développer.
On peut avoir d'autres exemples. Pour rester dans l'exemple avec Jérôme sur les food trucks, une personne, pour ne pas le citer, Hélène l'a fait, qui a mis en place de la vaisselle compostable, donc soit du carton ou du papier ou du bioplastique biodégradable, afin qu'il soit compostable. Donc là, on est vraiment sur des démarches qui sont assez poussées, assez abouties. On a également eu d'autres établissements qui tout simplement voilà, ne recyclaient pas, ne faisaient pas le tri sélectif, soit par manque de temps, soit on va dire par ignorance de la possibilité de l'effectuer. Donc là aussi, on a fait en sorte à ce que les bonnes pratiques soient mises en œuvre. On a également des entreprises avec un peu plus de salariés où là, au niveau des équipes, il y a eu vraiment un engouement de la part des salariés. Ils ont joué le jeu, notamment des traiteurs Chambord Prestige qui a été interviewé ce matin aussi, où là, on sentit que les équipes se sont mobilisées pour réduire les quantités de déchets, notamment les biodéchets, pour essayer de valoriser ces déchets avant qu'ils partent à la poubelle. Et un dernier exemple, ça va être sur les invendus alimentaires, parce qu'on est quand même sur des professionnels qui travaillent de la nourriture. Cette nourriture a des dates de péremption. C'est toujours très compliqué pour un professionnel de jeter de la nourriture. Au-delà de l'aspect psychologique, si on jette aussi de l'argent, c'est quand même des produits qui ont une valeur ajoutée, que le professionnel a apporté cette valeur ajoutée, et le fait de le jeter, on perd cette valeur ajoutée. Donc là, dans les prochaines éditions, on va essayer de travailler également, par exemple, avec des applications comme Too Good To Go, qui existent, qui se développent de plus en plus sur le Loir-et-Cher, où on peut faire en sorte de valoriser économiquement ces invendus avant de les jeter, à un tarif certes réduit, mais quand même un tarif économique, pour pouvoir s'assurer de gaspiller, de jeter le moins possible.
D'accord. Merci pour toutes ces informations. Concrètement, là, on arrive un petit peu à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au label de l'an prochain? Parce que là, le label 2018 a été délivré. La prochaine édition, donc 2019. C'est quand les réponses, en tout cas la labellisation, elle tombe quand?
Alors, on va relancer le dispositif tout début 2019, en janvier et février, très certainement, avec un premier semestre assez rempli pour aller démarcher les professionnels, effectuer les renouvellements. Donc cette année, on va mettre en place, c'est un petit peu en avant-première, on va mettre en place un label sur une durée de 2 ans, au lieu que ce soit une durée annuelle, ce qui nous permettra de mieux travailler avec les entreprises, de mieux les accompagner, d'avoir plus de temps.
Sur le moyen terme.
Voilà. Et puis également d'avoir un volume d'entreprises labellisées plus important. Et puis dans les prochains années, on peut espérer d'avoir davantage de moyens humains aussi, il faut dire ce qu'il y a, davantage de moyens aussi économiques pour communiquer davantage, notamment vis-à-vis du grand public, de la clientèle, qui puisse choisir son professionnel en fonction du label. Et pourquoi pas s'orienter vers d'autres activités que l'alimentaire, mais là, on a encore un peu de chemin à faire.
Vous avez beaucoup de possibilités. Et donc pour vous, Jérôme Pascal, pour le label de l'année prochaine, vous savez ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez en faire plus? Quels sont vos objectifs?
Alors, on va essayer d'en faire plus. Je vais essayer de faire de Too Good To Go aussi, là, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et bon, pour l'instant, je gère bien mes stocks, mais j'ai pas de pertes. Bon, je plaisante. mais il faudrait que j'arrive à faire ça. Ouais, ça pourrait être un objectif, effectivement. D'accord. Et après, passer vraiment au tout recyclable, plus du tout de plastique. J'y suis presque. Mais voilà. Encore des pistes à chercher.
Ok. Voilà. Donc encore des marges de manœuvre et des améliorations
Exactement.
À apporter.
Oui.
Très bien. Bah, merci à vous. Merci pour tous,
merci,
pour tout. On continue juste derrière. Vous parliez de Morgane Decourt de Chambre Prestige. Moi, je l'ai interviewé un peu plus tard. J'ai recueilli son témoignage en début de semaine. Et en effet, elle nous raconte la démarche globale de réduction des déchets mise en place au sein de cette entreprise traiteur depuis plusieurs années. Je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. Et puis après, on continuera et on parlera compostage. Voilà, vous voyez, on reste dans la démarche. Au début d'émission, on a beaucoup parlé de tout ce qui était réemploi, réutilisation, revalorisation. Et là, on est vraiment plus sur l'alimentaire. Voilà. Donc, on écoute Morgane Decourt nous présenter cette initiative et puis on revient juste après.
Composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller, zéro déchet.
La fête de la récup, c'est sur Studio ZEF.
Alors bonjour, c'est la société Chambord Prestige qui est traiteur organisateur de réception à la Chaussée Saint-Victor. Donc nous sommes en activité depuis 1972 et nous sommes implantés à la Chaussée Saint-Victor depuis 1992 et c'est une société qui reste à un niveau familial et dans laquelle moi je tiens le rôle de responsable qualité, sécurité, environnement.
Nous allons parler aujourd'hui de la démarche que mène votre entreprise sur le tri sélectif et la prévention des déchets. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre action dans ce domaine ?
Alors, nous avons commencé il y a plus de 4 ans à nous intéresser de près à ce sujet. Et nous avons mis en place au début en fait le tri tout simplement du carton qui représentait un volume assez important et qui était facile à trier. Donc on s'est lancé là-dedans et puis petit à petit en fait de fil en aiguille et par le biais de plusieurs rencontres et relations, on a mis en place de plus en plus de choses. Parce que c'est une valeur qui est importante pour nous et on sait qu'il faut bien commencer quelque part pour pouvoir agir un peu pour notre environnement entre autres.
Donc vous commencez par le tri du carton et quelles ont été un petit peu les différentes étapes qui vous ont permis de progresser dans cette démarche de tri sélectif ?
On a commencé tout seul dans notre coin à identifier quels étaient les types de déchets les plus faciles à trier. Et donc on s'est tourné vers énormément de prestataires différents et on s'est retrouvé confronté à un problème parce que aujourd'hui, il y a plusieurs choses à savoir, c'est qu'il y a le déchet urbain qui va être différent du déchet industriel et que les entreprises qui traitent les déchets et les matières valorisables ne sont intéressées que par ce qu'ils appellent des gros gisements, c'est-à-dire qu'ils veulent des grosses quantités. Et nous, vu la taille de notre entreprise, nous n'avions pas suffisamment de quantité pour intéresser les prestataires classiques. Donc on a dû chercher. Et après différents échecs, entre autres, on a réussi à trouver quelques prestataires qui répondaient à nos attentes. Et après, on a eu la chance, en fait, d'avoir l'appui de l'Aglo, de la CCI et de Valeco, qui sont venus réaliser un diagnostic déchets chez nous. Et à partir de là, on a établi un plan d'action, on a réussi à avancer et à améliorer, en fait, notre système.
D'accord. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce plan d'action ?
Alors, on a commencé donc par un diagnostic qui regardait quels étaient les volumes produits, qu'est-ce qui était recyclé, recyclable. On a également fait, après quelques temps de mise en place de différents tris, des caractérisations de déchets. Alors tout simplement, la caractérisation du déchet, c'est qu'on prend la poubelle du jour, on met des gants, on l'ouvre et on trie. On met de côté tout ce qui aurait pu être valorisé et qui ne l'a pas été, et tout ce qui devait à la poubelle reste à la poubelle. Et on s'aperçoit qu'en fait, déjà, au niveau de l'opérateur, on peut avoir une action parce qu'on peut améliorer la qualité du tri. Et ça, c'est Valeco qui nous a apporté en fait ce regard et qui nous a permis de mettre des actions de sensibilisation, entre autres, en place. Après, ça a été également de pouvoir identifier des nouveaux prestataires pour des nouveaux types de collectes.
Quel est l'intérêt pour une entreprise comme la vôtre de faire cette démarche?
Tout d'abord, c'est une réelle volonté de pouvoir avancer sur tous les sujets en fait du développement durable. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on est certifié ISO 20121, qui est une certification sur les événements éco-responsables. Donc ça nous pousse à avoir un regard sur notre activité, notre impact environnemental, notre impact social et notre impact économique. Et sur l'environnemental, le plus simple, le premier sujet que l'on peut facilement traiter, c'est cette gestion et ce tri des déchets. Donc ça rentre dans cette envie, cette motivation de mieux faire.
Cette démarche qui a démarré en 2013, vous la continuez encore aujourd'hui, mais est-ce que vous avez déjà des résultats? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, tout à fait. Donc, pour faire un tableau assez précis quand même de ce qui s'est passé chez nous, au début, on triait rien. Donc, en 2013, En 2013, on triait les cagettes, le polystyrène et les cartons, et tout était remis dans le même camion. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, ça sert à rien de trier, il faut qu'on trouve les bonnes filières. On a commencé par le carton. Ensuite, on a mis en place le tri du film étirable. On a suivi le tri des biodéchets, le tri des cagettes et des métaux. Et ensuite, on a remplacé le tri du biodéchet par du compost. Et on en est aujourd'hui à aller dans des types de déchets un petit peu plus fins, on va dire. C'est-à-dire qu'on arrive sur les bouteilles en plastique, les piles, les capsules de café. Ce qui fait que là, on a 14 types de déchets différents que l'on trie et que l'on remet dans des filières de valorisation.
Est-ce que vous pourriez nous citer les 14, qu'on voit un petit peu ce qui est possible?
Voilà, alors à Chambord Prestige aujourd'hui, nous trions le carton, le papier, le verre, nous utilisons du verre consigné, nous avons un compost végétal, on trie les huiles alimentaires, le film étirable, les capsules de café, toutes les pièces métalliques et les boîtes, les cagettes en bois, toutes les cartouches d'imprimantes, on arrive même à recycler les chaussures et tout ce qui est classique comme les piles et les ampoules. En perspective, on a donc, comme je vous disais tout à l'heure, les bouteilles en plastique et les tétrapacks. Parce que suite aux caractérisations, donc on s'est aperçu que l'un des volumes qui nous restait assez important aujourd'hui à traiter, c'était le tétrapack. Mais ce n'est pas un déchet industriel aujourd'hui.
Alors en termes de volume, du coup, avant la mise en place de cette démarche de réduction des déchets, quel était votre volume de déchets qui partait à l'incinérateur?
En 2013, fin 2013, on avait mis quasiment 500 containers. Vous savez, les grands containers 770 litres que vous retrouvez sur le bord de la route, on en avait mis 500 sur une année. Et à aujourd'hui, on est tombé à moins de 200.
D'accord.
Et même année, à chiffre d'affaires équivalent. Donc c'est quand même significatif.
En effet. Et en termes de volume de déchets recyclés, sur quelques, on va dire, quelques éléments forts, et parlant pour les auditeurs?
Alors, sur 2017, on a pu mettre plus de 2 tonnes de carton et papier au recyclage. On a envoyé 8,5 tonnes de bouteilles de verre. On a fait l'enlèvement de 700 cagettes en bois. On a rempli 4 bacs de compost des 600 litres. Donc ça représente à peu près pareil un conteneur de poubelle, et ben on en a rempli 4. Alors bon, le volume est un peu plus difficile à estimer parce que ça réduit, ça se compacte, enfin bon. mais voilà, pour les grands chiffres, on a envoyé 300 litres d'huile de friture pour faire du biodiesel.
Et alors moi j'ai une petite question un peu plus précise sur les films alimentaires. Vous arrivez à recycler les films alimentaires?
On a une filière qui nous collecte les films alimentaires et qui arrive à les réutiliser, oui. Mais par contre, c'est vrai que les films doivent être propres. On ne peut pas mettre tout ce qui a été vraiment souillé par de la sauce et différents résidus alimentaires. Ça, je peux pas le mettre.
Mais du coup, vous arrivez quand même à valoriser quelque chose qui est qu'on jette tous d'ailleurs à la poubelle, hein.
C'est là où je vous dis qu'il y a une différence entre le déchet urbain et le déchet industriel. C'est que quand j'ai commencé la démarche, Je me suis rendu compte que le film alimentaire était donc pris effectivement au niveau industriel, mais que nous, en tant que particuliers, on ne pouvait pas le mettre à recycler. Alors que, en tant que particulier, on recycle nos bouteilles et nos emballages en plastique, chose que je ne peux pas faire en entreprise. D'accord. À part évidemment, bon là aujourd'hui, je le prends à titre personnel, c'est-à-dire que j'ai une poubelle dans mon bureau, je le prends moi et je le mets moi dans le circuit. Mais si vous voulez, c'est pas une collecte d'entreprise.
Très bien, ben merci pour ces données. Pour finir, j'avais une dernière question. Je voulais savoir quel conseil vous pourriez donner à une entreprise qui souhaiterait rentrer dans la même démarche que vous.
Pour commencer une démarche comme ça, moi je vous conseille tout simplement de s'asseoir, de regarder quels sont nos déchets, de prendre celui qui est le plus représentatif et qui aura la filière la plus simple à mettre en place. Chez nous, ça a été le carton par exemple, parce que le volume était intéressant et le système était facile à mettre en place. Il ne faut pas avoir envie de tout trier d'un coup, sinon on va s'y perdre. Et vous allez voir que petit à petit, ça devient une habitude et ça prend pas plus de temps de trier. Par contre, derrière, il y a une réelle valeur ajoutée. Et c'est motivant, en fait, de voir les résultats. C'est-à-dire que c'est toujours mieux si vous arrivez à quantifier le avant et après, comme ça, vous voyez le résultat. Et là-dessus, vous avez toujours Valeco, la CCI et l'Aglo qui sont là pour vous aider, vous conseiller et vous accompagner. Ils ont plein de dispositifs et ils savent très bien se mettre à la hauteur de chaque interlocuteur, en fait.
Très bien. Ben, merci à vous.
Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup.
Composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller, zéro déchet.
La fête de la récup, c'est sur Studio Zef.